Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce 23 septembre 2013, lendemain du premier jour de l'automne. Ça se voit pas, mais c'est comme ça. Et nous allons aborder avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex l'actualité internationale du jour. Sur quoi pouvons-nous ouvrir? As-tu une idée, Robert? Tu as une préférence entre les Allemands ou le Kenya?
Ah, ben, je crois que oui, c'est quand même l'ouverture de la session 68e du nom de l'Assemblée de l'ONU, peut-être. Même si on n'en attend pas grand-chose, c'est quand même l'aspect mondial de notre planète actuelle.
Oui, 200 dirigeants pour parler de la Syrie, du désarmement, de la pauvreté dans le monde. Et puis l'occasion de voir des discussions de couloir, forcément.
Oui, c'est très, très parti radical à la française, c'est-à-dire que beaucoup de choses se disent dans les couloirs, y compris Hollande qui va rencontrer le président iranien dès demain. Alors, ils vont peut-être parler du Tricastin ou je ne sais quoi. Enfin, forcément, Hollande va lui dire « Surtout ne fabriquez pas de bombes, je vous l'interdis.
Ouais. » Pour le moment, Rouhani se démarque, on peut parler un peu de lui, quoi. Il donne l'impression de vouloir... Enfin, il donne surtout l'impression de vouloir en finir avec les sanctions qui lui sont appliquées au titre de la réticence de l'Iran à... faire la transparence sur son nucléaire, quoi. Alors il lance des appels au dialogue, et des choses comme ça, mais jusque-là il a jamais parlé de la question de l'enrichissement d'uranium, quoi. C'est un sujet qu'il n'évoque pas, ce qui laisse un peu perplexe, bien sûr, les gens qui pourraient penser qu'il va faire de grandes avancées dans le domaine, quoi. Michel,
On peut surtout noter qu'il y a un grand changement de stratégie donc entre Rouhani et Ahmadinejad. C'est avant tout, oui, c'est celui effectivement d'un fin diplomate donc qui est rompu à cet exercice. Rouhani et donc qui a pris les devants, qui a sollicité une entrevue avec Obama. Bon, on parle ça avec Hollande, c'est bien, mais avec Obama, ça c'est quasi historique. Hein. Si elle a lieu hein, pendant cette semaine, parce qu'on ne sait pas encore, mais c'est en train d'être finalisé. Mais dans le même temps, la feuille de route reste la même, hein, que ce soit Ahmadinejad, j'ai du mal ce soir. Ou que ce soit Rouhani, à savoir c'est Ali Khamenei qui fixe un peu les jalons, les limites des discussions. Et sur le dossier donc du nucléaire, du programme d'enrichissement iranien, il est clair qu'on voit mal les Occidentaux obtenir de Rouhani donc le renoncement donc à ce programme là tout l'exercice va être pour Rouhani peut-être de lâcher sur d'autres dossiers, voire peut-être sur la Syrie, hein. L'Iran est un allié de Bachar al-Assad, donc sur quelques volets, à condition effectivement que les Occidentaux, à commencer par les États-Unis, donc allègent un peu leur régime de sanctions qui commence aussi à toucher durement l'économie iranienne.
On voit pas bien comment l'Iran pourrait se désolidariser de la Syrie. Enfin,
pas totalement, mais déjà du régime. On a vu Rouhani condamner fermement donc l'attaque. Du 23 août dernier, donc sur la banlieue de Damas, l'attaque au Sahara, et donc il apparaissait assez clairement que Rouhani n'accusait pas directement donc les insurgés, hein, d'être responsables. Donc déjà cette condamnation ferme, sachant que c'est uniquement l'État qui dispose de ce vecteur donc du Sahara, bon, c'est une condamnation aussi de manière peut-être feutrée donc du régime syrien. Pour l'instant on est dans les supputations, c'est bien lui qui a utilisé les armes chimiques.
Voilà, donc autre sujet d'actualité du jour, c'est cette attaque...
Peut-être toujours... Oui, c'est sur l'Iran, on peut dire encore un mot, mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
Vas-y.
Oui, je voulais revenir sur ce document que la presse occidentale passe sous silence. C'est ce rapport d'une dizaine d'anciens militaires américains, la plupart de haut rang et la plupart ayant officié à la CIA, et qui... ont adressé à Obama des informations qui contredisent la version officielle internationale sur qui est responsable du gaz sarin répandu le 21 août. Et c'est un document très très précis dont malheureusement, visiblement, on fait comme s'il n'existait pas du côté américain et que, comme je l'ai dit, la presse occidentale ne veut pas s'en emparer, alors qu'il est apporté dans ce texte beaucoup de précisions sur le montage de ce que les auteurs appellent une véritable provocation, avec tout été vraiment programmé, y compris les troupes de rebelles préparées aussi bien en Turquie que sur les autres pourtours. Il leur était dit, attention, on va faire un truc le 21, enfin c'est le 21, il va y avoir donc un élément important qui va changer le cours des choses. Et d'après tous ces gens qui ont des sources très sérieuses, parce qu'ils connaissent beaucoup de monde, aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Qatar et que même en Israël, parce qu'Israël était dans le complot, parce que bon, ils n'emploient pas le mot complot, mais c'est tout comme. Et c'était une énorme provocation, et pour l'instant, ils maintiennent la position, à savoir que dans cette affaire, effectivement, le régime de Damas n'est pas à incriminer. Alors on a vu que bon, le complot a été déjoué et qu'il n'y a pas eu donc d'intervention militaire, ce qui était souhaité, c'est l'intervention militaire américaine, et donc l'entrée massive de rebelles un peu partout en Irak. En Syrie. Voilà, donc ce document, on le trouve, il porte le titre, il se nomme vétéran, 12 ex de service US Obama, et qui c'est du sérieux, hein, c'est pas des complotistes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu entendre par ailleurs, mais en même temps il rappelle que finalement il était en train de se reproduire le même scénario du mensonge que celui qui avait conduit à l'intervention en Irak, un discours mensonger comme du même type que celui que Powell avait fait devant les Nations Unies en son temps, en 2003.
Oui, voilà. Si tu peux me donner la source de ce document-là, tu dis les 12 vétérans, donc on peut oui. Trouver...
Tu entends, Robert, Michel, tu oui. Demandais des précisions sur la source où tu as trouvé ces éléments d'information.
Oui, je le donnerai au cours de la...
T'as plus ça en tête dans l'instant.
Ouais. D'accord. Avant la fin du journal, voilà, oui.
D'accord. Allez, on parle un peu du Kenya et de Nairobi. On n'en parle pas souvent, mais là, on a une occasion assez carabinée, puisque un attentat, enfin, c'est une attaque même, non pas seulement des kamikazes qui se font sauter, mais des gens qui arrivent avec des armes et qui tirent... sur les gens qui se trouvent être là. Là, c'est où? C'est un grand centre commercial qu'on peut qualifier de luxe à Nairobi, capitale du Kenya. Donc, à l'heure qu'il est, il semble que c'est peut-être pas encore terminé. Ça fait donc plus de 48 heures que Les attaquants ont tiré un peu dans la foule, un peu partout. On dénombre actuellement 70 morts et quelques 200 blessés, et peut-être beaucoup plus quand on aura fini. Et ils se sont repliés avec des otages dans des lieux. Enfin, c'est assez bien structuré, organisé. Alors, pourquoi une telle action et pourquoi à cet endroit-là? Parce que, semble-t-il, ce mouvement islamiste radical Shebab, qui vient de Somalie, avait des comptes à régler avec le Kenya, qui est intervenu en Somalie pour s'en prendre aux islamistes il y a quelques mois. Pour eux, ils ont déclaré que c'était une vengeance. Pour les observateurs, c'est une régionalisation du conflit, puisque pour des interventions faites en Somalie, la répression a lieu à l'extérieur. On peut noter différentes choses dans cette attaque, que le centre commercial en question semble être un investissement israélien au Kenya, ce qui n'est peut-être pas étranger non plus au choix de ce lieu pour une attaque. On peut dire aussi qu'il apparaîtrait que les gens, avant de tirer sur des clients qu'ils avaient devant eux, s'enquérait de savoir s'ils étaient musulmans ou non. Les musulmans pouvaient échapper au massacre, les autres pas. Les observateurs se demandent maintenant si ces groupes Shebab ne pourraient pas aussi intervenir dans d'autres pays voisins comme l'Ouganda, la Tanzanie, et engendrer une déstabilisation des États, ce qui est un peu l'objectif recherché, en même temps qu'ils demandent que les Américains arrêtent avec leurs drones de cartonner sur leurs installations en Somalie. Voilà, c'est plus qu'un fait divers, c'est un événement qui montre que des groupes islamistes radicaux comme ça, armés, organisés, sont susceptibles de créer des opérations terroristes en pays étrangers. Pour le moment, bon, ça se passe dans la Corne de l'Afrique, tout ça, mais voilà. Peut-être, mais Michel?
Juste à ajouter sur ce que tu venais de dire, Marie, que les islamistes qu'on nous dit, hein, une internationale islamiste, on nous parle effectivement de ressortissants qui anglais, états-uniens, présents donc dans le groupe des preneurs d'otages dans ce centre commercial de Nairobi. Mais on nous dit aussi qu'ils viennent donc de Somalie, hein, si on peut dire. Voilà. Juste à préciser que le Kenya et l'armée kenyane, c'est un peu le bras armé des États-Unis dans la Corne d'Afrique. Et voilà maintenant déjà depuis à peu près 4 ans que, en coopération, les États-Unis avec le Kenya, avec l'armée kenyane, donc mènent des opérations donc pour consolider. Le régime de Mogadiscio qui, enfin, du moins c'est une variante, hein, d'un régime, enfin, voilà, qui l'aurait favorable face à ce qu'on appelle donc les courants islamistes. Alors, pour les Américains, la partie aérienne, hein, ce que tu évoquais, les drones, donc l'usage massif de drones sur cette région-là, comme en face du golfe d'Aden sur le Yémen, et pour les forces kényanes, donc les opérations donc sur le terrain. Aidé bien entendu par les Américains sur tout ce qui est logistique et tout ce qui est renseignement. Oui, rien de nouveau sous les tropiques. C'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique entre ce gros groupuscule donc dont les revendications ont été assez flou, hein, qui est suicidaire, hein, s'engager comme ça à une quinzaine, vingtaine dans un centre commercial qui est gardé. Hein. Là aussi, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. C'est un centre commercial ultra luxueux. Faut montrer carte blanche, à savoir sa carte bleue si on veut pouvoir rentrer dedans. C'est pas ouvert à tous les Africains, avec une clientèle effectivement de population kenyane noire bien introduite, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit chrétienne ou animiste, et aussi des Indiens qui tiennent un peu le commerce, hein, dans la région. Tout ça, effectivement, c'est plus une opération médiatique, hein, on le voit bien, l'usage du tweet à l'adresse Donc des Occidentaux, hein, plus que du gouvernement de Nairobi, de fait, hein. On a servi de prétexte, mais de fait, une sans revendication de libération de qui que ce soit, enfin, si ce n'est, voilà, arrêtez de nous tirer dessus avec vos drones, arrêtons l'armée kényane, on demande le retrait finalement de l'ancienne Somalie de l'armée kényane, mais tout ça donc est par avance voué à l'échec, et c'est juste effectivement une opération de com sanglante que vraiment une opération avec une portée stratégique.
Robert, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet ?
Oui, simplement que c'est la conséquence historique des interventions américaines et souvent appuyées par l'OTAN ou l'Occident. Les Américains, les États-Unis ont chassé les talibans, on a vu ce que ça donne. Ils ont chassé les Chebabs qui étaient au pouvoir en Somalie, on voit ce que ça donne. Bon, et le chaos est partout. Alors évidemment, les groupes terroristes, c'est une belle appellation, mais en même temps, on est d'accord, on a peu de sympathie pour ces gens-là, mais il n'empêche que c'était des gens qui ont occupé le pouvoir et on les a chassés du pouvoir. Et ben maintenant, on les appelle des terroristes. Voilà, c'est un peu la sémantique qui avance, à défaut de faire avancer la paix. Je voulais simplement dire que je retrouvais là à la question de Michel. En fait, oui, je m'en doutais, mais c'est ce texte du groupe d'anciens de la CIA, c'est Investigaction que vous connaissez, je crois, Investigation.
Oui, Michel Colomb.
Oui, voilà. Qui relaie, ne fait que relayer ça. Hein. Et il a pu le faire traduire. On l'a en français. Et le titre, c'est en fait, c'est le groupe, il s'appelle comme ça. Il s'appelle alors c'est en anglais. Veteran Intelligence Professional for Saintly. Veteran Intelligence Professionals for Saintly. Donc, si on commence par vétéran, et ça s'appelle pour le groupe de pilotage. Ce groupe de pilotage. Voilà. Donc, mais pas de problème, à mon avis, pour le retrouver sur Investigation Michel Colomb.
Voilà. Alors, quelques 80 morts à Nairobi, quelques 80 morts aussi au Pakistan. Alors, je ne sais pas s'il faut imputer ça au terrorisme ou pas, mais en tous les cas, il semble que ce soit une attaque des talibans contre cette fois la minorité chrétienne qui représente dans le pays seulement mais presque 4 millions de personnes. Mais c'est un pays à 200 millions presque d'habitants. Et bien les talibans, là aussi, ont des comptes à régler et s'en prennent aux Occidentaux et à tout ce qui n'est pas musulman, puisqu'on se souvient qu'il y a quelques mois, c'était les alpinistes qui avaient moufté, là, une dizaine d'Européens. Ça a été aussi les chiites, et là, pour la première fois, donc à la sortie d'une église un dimanche matin, des bombes explosent et évidemment ça fait du dégât autour, quoi. Donc situation aussi tendue en Pakistan entre les talibans qui ont toujours leurs revendications non satisfaites auprès du pouvoir et puis un gouvernement pakistanais qui essaie de ménager à la fois les Américains et ses opposants là.
Si on fait le décompte macabre des morts de la journée ou du week-end, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de personnes assassinées dans tous ces pays que tu viens de citer, là, au pourtour, qu'en Syrie. Alors, on est dans les paradoxes, alors qu'effectivement, on focalise sur la Syrie, alors qu'il est tué, enfin, des centaines de gens maintenant, que ce soit en Irak, bon, aujourd'hui, que ce soit au Kenya, Pakistan, Soudan, etc.
La Syrie, aujourd'hui, elle a juste, dans les médias, droit à un bon point, parce que Bachar, excellent élève, a fourni dans les temps la liste de ses armes de destruction massive. Il n'y a pas longtemps, il prétendait qu'il n'en avait pas, mais finalement, il les a retrouvées et il a pu fournir une liste à l'ONU. Donc, il est bien vu.
Cette thèse, il a jamais nié qu'il en avait. Simplement, il avait toujours dit que il ne les utiliserait que si il y avait des interventions de troupes étrangères. Hein. Mais moi, j'avais toujours entendu ça depuis pas mal de temps. Qui était une façon de dire qu'il en avait, quoi.
C'était un secret de polichinelle. On sait bien que c'est un programme chimique de longue date, ainsi que les Israéliens dans la région. Oui.
Si ça se trouve, les Américains le connaissent depuis longtemps, son stock.
Oui, c'est pour la forme, ça. On passe à l'Allemagne, ou on a encore d'autres sujets internationaux que vous voudriez évoquer? Non? Alors, passons un petit peu à l'Allemagne, on pourra toujours revenir si on veut. Donc, ça y est, comme je le disais, la fille du pasteur est aux anges, puisqu'avec 311 députés d'acquis sur 680... Il lui manque pas beaucoup de sièges. Enfin, là, j'ai pas très bien compris, parce que la moitié de 680, c'est 340. Et on nous dit qu'avec deux sièges de plus, elle avait la majorité. Alors, je sais pas, peut-être qu'on regarde de plus près les chiffres. Toujours est-il qu'elle a pas la majorité. Alors, soit elle débauche quelques députés dans les autres partis, ça se fait bien, ça, peut-être plus
oui,
en France qu'en Allemagne.
Être assez facile.
Ou soit elle fait une alliance avec un parti qui peut être soit les Verts, puisqu'ils ont 63 élus, ou soit le SPD avec 192 élus. Il semble que les gens sont partagés parce que ils pensent qu'ils n'ont rien à gagner à s'allier. En général, c'est elle qui récolte les fruits de l'alliance. La surprise, c'est quand même sa victoire à un tel niveau. Les sondages et les observateurs laissaient entendre que sans doute il faudrait qu'elle compose avec un partenaire qui ne sera pas son partenaire habituel, puisque les libéraux, n'ayant pas fait 5%, sont éliminés. C'est la première fois depuis 65 ans qu'ils ne se retrouvent pas à la Chambre des représentants, là. Par contre, les Verts sont présents, et même Die Linke, je ne sais pas combien ils ont, 8,5% des voix, donc ça doit leur faire aussi une soixantaine de députés. Mais ce n'est pas avec Die Linke qu'elle va s'associer, bien sûr. Voilà, que dire de plus? Donc l'Allemagne est gouvernée à droite, la France est gouvernée à gauche, très peu, mais un peu quand même. Est-ce que la bonne entente va régner entre ces deux nouvelles équipes?
Ben oui, c'est la continuité surtout qu'on remarque. Que dire de l'élection d'Angela Merkel, que c'était couru d'avance? Elle est le reflet aussi de l'Allemagne, hein, qui est de plus en plus conservatrice, de plus en plus vieillissante, donc une population vieillissante qui a tendance à voter de plus en plus conservateur. Que la frange la plus exploitée de la société allemande, il y a longtemps effectivement que la politique elle a passé de balancer par-dessus l'épaule, donc ils n'en intéressent pas, et que Die Linke a du mal justement parmi ces gens qui sont les plus précarisés en Allemagne à rameuter vers elle. Et quant aux Verts, on sait bien que les Verts en Allemagne, il y a longtemps qu'ils se sont boboisés. Hein. La culture des Verts allemands, c'est encore plus bobo finalement que la disparité de Verts qu'on a chez nous. Hein.
C'est difficile pourtant.
Et oui, mais bon, pourtant c'est une constatation. Donc c'est une population qui est hautement qualifiée, citadine, et qui dans l'idée effectivement d'une coalition, c'est pas exclu non plus que certains d'entre eux trouvent un terrain d'entente avec la CDU et gouvernent.
Ton avis aussi, Robert?
Oui. Je voulais dire un mot sur la manière dont les médias français ont peuplé nos oreilles ou nos yeux hier soir, à partir du moment, 18h à peu près, où les premières indications ont été données. Ça a été tout de suite une espèce de cri de joie de nos médias, de triomphants, eux-mêmes parlant du triomphe d'Angela, d'un plébiscite, alors que avec 42% des voix, on ne peut pas appeler ça un plébiscite, hein, d'autant que toutes les voix de gauche comptabilisées, ça fait à peu près la même chose. Ensuite, donc majorité absolue, donc qui s'avère, toute la soirée a été lancée que de toute façon elle avait la majorité absolue, elle perdait le parti libéral, mais ça fait rien parce que comme elle a la majorité absolue, ça c'est pour la forme. On a vraiment vu que il y a une presse française qui est peut-être contradictoire, parce que tantôt elle vouait aux gémonies Merkel à cause de sa politique d'austérité, ou tantôt, ce qui est plutôt sa véritable nature de la presse française, elle est tout à fait conservatrice, et elle va dans le sens de ce que fait Angela Merkel en Allemagne. Donc elle est très 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 satisfaite de cette situation.
Voilà, alors la gauche avait des revendications qui vont sûrement pas passer. Il y en a une en particulier qui mérite qu'on s'y arrête, c'est l'instauration d'un SMIC, on peut appeler ça comme ça, ou d'un SMIC à 8,50 € de l'heure, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. Donc je suppose qu'on peut, si on se débrouille mal, travailler pour 0,50 € de l'heure en toute légalité. Eh bien ça, c'est une revendication que la gauche s'était engagée à faire passer. Maintenant, même dans le cadre d'une alliance, c'est pas gagné, quoi. Donc on retiendra du bilan de Merkel rapidement qu'elle avait quand même aboli le service militaire en Allemagne et qu'elle avait supprimé le nucléaire dans une perspective à 10 ans. Comme elle l'a remplacé par le charbon en matière de pollution, c'est pas vraiment une réussite complète.
Oui, mais il est vrai que ça a dû compter dans la perte de voix des Verts, hein, parce qu'effectivement, elle a joué habilement sur « on sort du nucléaire hein, », parce que comme c'était un slogan porté par les Verts depuis des décennies, elle a rallié à elle sans doute un petit morceau de cet électorat, puisque les Verts perdent 3 points à peu près sur 11, donc 30%. Même chose d'ailleurs pour la gauche de la gauche, avec D-Line qui perd également 3 points, donc du presque 30%, descend de 11, de presque 12 à 8,5%. Alors là, bon, D-Line a connu d'énormes problèmes internes qui effectivement n'ont pas facilité une apparition crédible dans la bataille, alors que la manière de dont le SPD a mené sa campagne, normalement il avait le tapis rouge était dégagé pour D-Like, mais D-Like n'a pas su le faire. Bon, maintenant les élections, c'est comme on dit souvent à gauche de gauche ou chez les révolutionnaires, c'est un moment nécessaire, mais c'est pas là que se fait les véritables rapports de force.
Voilà. Michel, tu avais un autre sujet dont tu voulais parler en international? Non? Pas spécialement. On fait notre pause musicale avant de revenir à l'actualité nationale. On évoquera les otages du Niger peut-être dans ce cadre-là. Pause musicale. Le 23 septembre 1973 mourait Pablo Neruda. De sa belle mort, on nous a dit et on a cru longtemps. Aujourd'hui, on commence à pouvoir penser qu'il y a de bonnes chances qu'il a été liquidé par le tout frais régime de Pinochet installé depuis une semaine au pouvoir. Hein. Il y a eu des révélations ces derniers temps à ce sujet-là. Alors, on voulait rendre un hommage à Pablo Neruda. On va le faire avec Francesca Solville, qui chante une chanson qui s'appelle « À la haine », et texte de Neruda qui avait été mis en musique par Sergio Ortega.
À la haine, je lèguerai mes 4 fers à cheval, ma chemise de marin, mes souliers de voyageur, et mon cœur de charpentier, et mon cœur de charpentier. À la haine, je lèguerai mes 4 fers à cheval. Ils finiront bien par comprendre ces sacrés noms de Dieu, de fils, de pute, que nous sommes vivants, 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 que nous sommes vivants, vivants, vivants. tout ce que je savais faire, ce qui m'aidait à souffrir. La possession pure et dure, l'intouchable et l'immigrante, pour qu'on apprenne sur la terre, pour qu'on apprenne sur la terre, tout ce que je savais faire, ce qui m'aidait à souffrir. Ils finiront bien par comprendre ces sacrés noms de Dieu, de fils, de pute, que nous sommes vivants, 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 que nous sommes vivants, 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 que ceux qui ont bois et eau, récolté et navigué, peuvent aller, revenir, aimer, souffrir, travailler, peuvent exister. Poursuivre, faire exister et poursuivre, que ceux qui ont bois et eau peuvent couper et naviguer. Ils finiront bien par comprendre ces sacrés noms de Dieu, de fils, de pute, que nous sommes vivants, 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 que nous sommes vivants, vivants, vivants. Craindre, fleurir et mourir peuvent être simples et obscurs, peuvent ne pas avoir d'oreilles et supporter le malheur, et peuvent attendre une fleur, et peuvent attendre une fleur. Craindre, fleurir et mourir peuvent être simples et obscurs, ils finiront bien par comprendre ces sacrés noms de Dieu, de fils, de pute, que nous sommes vivants, 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 que nous sommes vivant, vivant.
Les mots de Pablo Neruda, qui n'y allait pas par quatre chemins, comme vous avez pu l'entendre, donc interprété par Frances Castleville, en hommage à sa disparition il y a 40 ans, jour pour jour. Vous écoutez toujours bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 23 septembre, et nous arriverons à la rubrique nationale. On va peut-être évoquer cette deuxième conférence internationale sur l'écologie en route vers 2030 et 2050. De toute façon, qu'on y aille à reculons ou de face, il faut y aller. Et on y va avec des mesures qui sont prises, certaines pour être efficaces tout de suite ou assez vite, d'autres à moyen et long terme. En particulier celle qui concerne la fiscalité écologique, quoi. Pour le moment, des mesures qui laissent un petit peu perplexe aussi, parce qu'on se gargarise d'une TVA à 5% pour la rénovation thermique. Bon, c'est bien, mais actuellement elle est à 7. Alors, comment ils veulent la passer à 10 au mois de janvier, ils veulent nous faire croire maintenant qu'ils l'ont divisée par 2 en la ramenant à 5. Moi, je dis qu'on l'a diminuée un tout petit peu, et que 2% sur un chantier qui fait 20 ou 30 000 euros, ça fait 400 ou 600 euros. C'est pas ça qui va faire que les gens qui pouvaient pas faire le chantier vont pouvoir le faire. Donc, je trouve que c'est un peu... Effectivement, ça va dans un sens positif, mais c'est un peu démagogique et ça changera pas la face du monde et du CO2 dans la stratosphère. Alors après, il y a des mesures assez bidonnantes, comme l'uniformisation des couleurs pour les bacs de tri. Super sympa, effectivement, on s'y retrouvera mieux, mais ça va coûter 500 millions d'euros. On aurait peut-être pu y penser avant et éviter une dépense inutile à changer des bacs de tri qui ne demandent qu'à être utilisés. Enfin, bon. Et la taxe carbone sur les bénéfices des centrales nucléaires les plus anciennes. Alors ça... Moi, personnellement, je n'y crois pas un instant. C'est-à-dire, en fait, qui va payer la fameuse taxe ? C'est pas du tout EDF, puisqu'EDF n'arrête pas de nous dire que l'électricité est pas assez chère en France, qu'ils peuvent pas boucler leur budget et qu'il va falloir l'augmenter. Alors, si on leur rajoute une taxe sur les vieilles centrales, ils vont aussitôt la répercuter dans les prix. Et qui va payer ? C'est le consommateur de base, bien entendu. Donc on sait que les mesures fiscales engendrent certaines réactions, et pas seulement chez les plus riches. Là encore, ça va encore tomber sur les moins fortunés qui vont devoir payer leur électricité plus cher. Voilà, ce gouvernement a des idées, on pourrait lui en donner d'autres, parce que du gaspillage, il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne nous fournit pas les bilans de consommation d'électricité des bouteilles en verre qu'on fabrique et qu'on jette? Pourquoi est-ce qu'on ne nous fournit pas, en rapport à l'éclairage des villes, les consommations pour faire de l'aluminium et le fondre, ou pour faire de l'acier? On aimerait se rendre compte de la réalité. Plutôt que, c'est comme pour l'eau, on fait croire qu'en fermant le robinet 10 secondes plus tôt, on va changer le devenir de la planète, alors que si on regardait où est vraiment consommée l'eau et à quel prix elle est vendue, quand on veut faire du maïs dans les endroits où on ne peut pas en faire, ou plein d'autres activités, il faudrait lister, là les quantités d'eau sont astronomiques. Alors est-ce qu'on veut vraiment prendre l'écologie pour changer la société dans ce sens-là, ou est-ce que c'est pas des mesures finalement un petit peu démagogiques? Il suffit de voir comment on empapaoute les enfants dans les écoles en leur dans les branchant sur des sujets qui sont tout à fait marginaux par rapport à la réalité de la situation économique et de consommation d'eau, d'électricité et autres. Voilà, mais je ne vais pas être le seul à parler là-dessus. Robert, tu voulais...
Oui, mais Michel peut-être, non?
Michel, il a... Je vois que ça n'emballe pas grand monde dessus.
J'avoue que non, ça ne m'emballe pas du tout.
Et pourtant, vous allez payer.
mais bon, enfin, voilà, quand je dis ça ne m'emballe pas, il n'y a rien de nouveau. Là.
C'est vrai. Alors, on change de créneau. La sécurité sociale.
Là non, attends, oui. Non, je laissais là dire quand même, ajouter que ce qui manque effectivement dans le discours d'hier, c'est que on ne veut pas du tout admettre qu'il y a urgence à programmer la sortie du nucléaire. Et chaque jour, on voit ce qui continue de se passer à Fukushima. On ne sait pas en train de ce qui est en train de se passer au Tricastin, où effectivement il y a du tritium qui se balade dans le sous-sol et dans les nappes phréatiques. Donc voici une eau polluée qui va rejoindre le Rhône, et que les centrales sont les tuyauteries des centrales, même si le réacteur est, lui il peut tenir longtemps, parce qu'on peut, on sait même pas comment les éteindre, mais les tuyauteries en aval et en amont, ben ça va plus du tout, et cette question n'apparaît pas. Et les Verts se contentent de ce que tu as dit là, ce que les Verts se contentent de ces petits saupoudrages pour laisser croire qu'effectivement on va bien vers une alternative à ce que sont les énergies, soit nucléaires, soit fossiles. Et bon, c'est une catastrophe de ce point de vue-là, de ne pas prendre la réalité des dangers que constitue la situation du nucléaire en France telle qu'elle est, dans la mesure où les milliards qui vont être investis pour colmater les tuyaux qui sont en train de crever, eh bien, ce n'est pas du tout envisagé. Et là, le manque de courage est patent. Et les Verts, visiblement, se satisfont donc de ces petites promesses faites hier. On peut dire que c'est dramatique.
Voilà pour ce sujet. Donc la sécurité sociale, Madame Touraine veut avancer aussi et généraliser le tiers payant d'ici 2017. Bon, moi je trouve qu'en soi c'est plutôt une bonne idée, puisque des gens ne peuvent pas se soigner parce qu'ils ne peuvent pas avancer l'argent chez le médecin, que certes la sécu leur remboursera après, mais encore faut-il pouvoir les débourser au moment où on va voir le toubib. À part ça, des promesses sur la stratégie de santé, sur l'accès aux soins face aux déserts médicaux, donc une volonté de développer les maisons de santé. On est même prêt, dans les coins où personne ne veut aller, à donner 3 600 € à un médecin pour s'y installer, à lui garantir un revenu de 3 600 €. médecin. Mais par contre, si on voulait vraiment faire des économies de santé, là aussi, on ne publie pas les détails des budgets de la Sécu. On aimerait bien voir comme il faut de près, pouvoir analyser. Et ça, on ne le sait jamais. Pourquoi est-ce qu'on ne fixe pas des plafonds aux revenus des médecins? Pourquoi est-ce qu'il y a des tas de choses qui pourraient être faites dans la matière de santé? Pourquoi est-ce que la santé doit être rentable alors qu'il n'a jamais été dit cela? On nous explique que les cotisations des salariés ne suffisent pas à équilibrer le budget. Mais évidemment, il n'y a plus de salariés maintenant. Il n'y a que des machines et des importateurs. Alors que mettons en place des taxes pour la Sécu et les retraites sur les chiffres d'affaires, sur les produits qui rentrent en importation. Et à ce moment-là, on récupérera un niveau de cotisation qui correspondra aux besoins de la population. En plus, on se demande bien pourquoi, à une époque où il y a de moins en moins de salariés, il faut que repose uniquement sur eux l'ensemble des frais d'un système de santé national, alors qu'il devrait être au niveau de l'État, soutenu par tous ou par toutes les activités industrielles et commerciales. Et bien ça, je vous assure que aussi bien les gros paysans de la Beauce que les importateurs de produits chinois et le MEDEF dans son ensemble, personne ne veut entendre ce langage-là, et le PS se garde bien de le tenir, quoi. Il n'y a même pas quelques extrémistes, il y en a peut-être quelques-uns pour tenir ce genre de propos, mais ça n'a pas droit de citer dans la politique gouvernementale.
Et on attend de Touraine une loi qui remette à plat tout ce qui a été fait en matière de restructuration du secteur santé, et notamment revoir le dispositif des agences régionales de santé, qui sont en même temps c'est la loi Bachelot sur la nécessité de faire des comptes équilibrés. Or on sait que les agences régionales de santé c'est un véritable scandale économique et financier, puisque elles sont largement ouvertes aux médecins et autres professeurs qui font du business et qui sont en permanence en conflit d'intérêts avec notamment les laboratoires et bien d'autres secteurs. Enfin, il y a quelque chose de malsain dans ce fonctionnement des agences régionales de santé, et donc une loi devait être faite qui réforme tout ça et qui en même temps donc balaye la loi Bachelot. Mais pour l'instant, Touraine, là aussi, elle fait du saupoudrage. Tu l'as expliqué, hein, c'est pas rien, sauf que c'est pas prévu tout de suite, enfin, sauf pour les plus pauvres. Mais toutes les petites mesurettes, d'ailleurs, elles sont jamais à effet immédiat. C'est assez curieux, cette manière habile dont procède le gouvernement. C'est toujours pour 2014, quand c'est pas 2015 ou 2016.
Voilà. Alors, on savait que Sciences Sociales, les chômeurs avaient une forte tendance à se suicider dans certaines entreprises. Si maintenant les gens dont la fonction est de remettre les chômeurs au travail se suicident aussi, on est mal. Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe, puisqu'un cadre lyonnais de Pôle emploi s'est suicidé, c'est le troisième. Du coup, ça déclenche un certain émoi et un mouvement dans les structures de Pôle emploi. Alors, les plus cyniques diront qu'il a eu l'avantage de créer un emploi en procédant ainsi, mais enfin, on peut quand même pas raisonner comme ça. Et il vaut bien qu'il y ait un malaise dans Pôle emploi, ex-ACEDIC et ANPE, pour que des gens qui sont en responsabilité dans ces structures ne supportent plus, comme c'était le cas à France Télécom, les restructurations qu'on leur impose, et préfèrent en finir avec la vie plutôt que de s'adapter à des conditions de travail qui ne sont pas du tout compatibles avec leurs capacités.
Tu parlais de Lyon.
C'est un Lyonnais, bon. Le cadre, le dernier, ouais. Hein, qui s'est suicidé.
À propos de... Parce que c'est le tribunal de Lyon le tribunal de commerce de Lyon qui s'occupe de l'affaire de Kemwon. Et on a appris aujourd'hui, je crois, qu'un nouveau délai de 2 mois était mis en piste pour donner du temps aux repreneurs potentiel, mais bon, y a un repreneur, mais le gouvernement n'en veut pas finalement. C'est un repreneur qui serait société d'économie mixte avec la CGT, notamment dedans, et puis d'autres gens. Donc sorte de coopérative, mais visiblement le gouvernement ne veut rien entendre. Par contre, il y a deux fonds de pension américains qui sont sur les rangs. Mais quand on a vu comment ça s'est passé avec le fonds américain qui est Kemwon qui a repris ça, c'est le pessimisme.
Ça présage rien de bon.
En ce qui concerne l'avenir.
Ça présage rien de bon. Il y avait manif samedi au Lila, à la mairie, enfin à la fameuse maternité des Lilas, 1200 personnes dans la rue. Alors aux plus jeunes, ça ne doit pas dire grand-chose, la maternité des Lilas, mais aux plus anciens, ça a été vraiment un lieu progressiste pour les naissances, en région parisienne bien sûr, et dans les années 70, c'était, ils ont fait des tas de choses, les femmes se pressaient un peu pour accoucher dans cette maternité-là à cause des pratiques et des méthodes qui étaient employées, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on devait subir ailleurs, quoi. Et là, il semble qu'il y a une volonté de déménager la maternité du Lila, qui en fait est peut-être plus une manière de masquer sa fermeture annoncée en la dissolvant dans autre chose, quoi. Donc il y a toujours un mouvement de personnes sensibles à ces questions-là, les conditions d'accouchement, qui se mobilisent pour soutenir la maternité Lilila en tant que telle. L'argument, bien entendu, c'est qu'elle n'est pas rentable, qu'elle fait du déficit, comme si, là aussi, on l'a dit tout à l'heure, les structures hospitalières et autres étaient là pour rapporter de l'argent, quoi.
Et d'ailleurs, le conflit des urgences de l'Hôtel Dieu se poursuit parce que il y a la volonté de l'hôpital public de fermer les urgences de l'Hôtel Dieu et en plein centre de Paris, alors que c'était vraiment quelque chose qui permettait d'apporter rapidement, parce que quand on va aux urgences, dans bien des cas, c'est parce que ça urge, comme le dit très bien l'expression elle-même. Je voulais revenir sur aussi cette déclaration extraordinaire, mais qui ne nous étonne plus du tout, de Montebourg, à propos de Eulièze. Eulièze, c'est un peu lié à la mécanique et puis à l'automobile.
Oui, mais ils ont fait des autobus dans le temps.
Est toujours sur la sellette, cherche des repreneurs. La région Poitou-Charentes, sous l'impulsion de Ségolène Royal, avait mis en place, essaye de mettre en place une société d'économie mixte, mais visiblement Montebourg doit être complètement fâché avec Royal, ou plutôt il a tellement retourné sa veste que c'est extraordinaire, parce qu'il a dit, il a pratiquement repris ce fameux propos, fini, on n'aide pas les canards boiteux, c'est un canard, enfin il n'a pas pris l'expression, mais ça voulait dire ça, hein. Plus un sou public dans cette entreprise parce qu'elle n'a pas de clients. Donc c'est un canard boiteux et il faut tirer un trait sur Eulièze. C'est extraordinaire, ce type Montebourg qui en arrive là aujourd'hui.
Ouais. D'autres infos, à Drancy aussi une manifestation samedi autour de la question de la zone de fret avec matières dangereuses, chlore, ammoniac, matières nucléaires. Hein. Drancy, c'est la grande gare de triage de la SNCF et il a été mis en place un arrêté préfectoral qui interdit la construction à moins de 620 mètres de la gare. Du coup, les populations s'émeuvent et se disent que déjà ça fait loin et que si on prend une telle précaution, c'est que c'est vraiment dangereux et que même ceux qui sont à un peu plus de 620 mètres vont peut-être prendre des risques et que il serait sans doute judicieux de faire ces transports s'ils sont vraiment indispensables dans des zones moins urbaines.
À propos d'un conflit social prévisible et d'une ampleur importante, puisqu'elle sera quasi européenne, cette ampleur, c'est à propos de ITER. ITER, on rappellera, c'est donc la La fusion, bon, c'est pour monter cette grosse machine à Cadarache dans le sud. Et pour monter cette machine, enfin, il y a des travaux colossaux qui ont déjà démarré. Mais dans les mois, ça va commencer au mois prochain, mois de novembre, mais ça va surtout être au printemps, il est prévu d'embaucher 3000 personnes, tous les secteurs du bâtiment et autres qui sont concernés. Et alors, il se passe des choses extraordinaires, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire EDF, CEA, Areva, sont en train de soumettre à des agences de recrutement avec des propositions de conventions qui couvrent hors droit actuel, droit du travail. C'est-à-dire qu'on ferait un droit spécifique pour ces salariés, compte tenu que la plupart vont venir de l'étranger, notamment des pays de l'Est. Et c'est quelque chose de ça va être. On dit d'ailleurs que ce sera sans doute le plus gros chantier inter-européen qui va directement être dans le cadre de la dérégulation totale du droit du travail. Et donc ce sera quelque chose qui se négocie, qui donc va soit s'appuyer sur le code du travail des pays d'où viennent ces gens-là, mais rien n'est fait. C'est concédé à des entreprises d'embauche qui sont opaques. Et déjà, par exemple, au niveau des salaires, quelle grille de salaire selon les qualifications, où loger ces gens, 3000 personnes là qui vont débarquer. En plus, il y a des gens qui ont la même compétence ici, enfin dans toute la France, et puis même, enfin, on va parler de la France. C'est un chantier quand même international, mais sur le territoire français. Qui serait apte pour beaucoup à employer, à entrer dans ces emplois, mais comme ils veulent appliquer le droit du travail français, on va les refuser parce que on va trouver effectivement à faire venir des gens qui coûteront moins cher. Et voilà. On a déjà parlé des grands papiers qui sont parés dans la presse, notamment Politis a fait une très belle enquête, et puis ça va aller en grossissant cette affaire-là, mais ça va être effectivement la preuve de la totale dérégulation, déréglementation en Europe. Ça sera la preuve que, hélas, ça marche avec la complicité des États et des grandes sociétés multinationales.
Voilà, on va faire quelques infos
culturelles.
On va peut-être terminer aussi en disant que samedi, c'était la journée pour l'Alzheimer, sur la recherche, tout ça. Je pense qu'elle a été largement consacrée à François Hollande, qui a oublié beaucoup de ses promesses et qui, à ce titre, nous inquiète beaucoup. Allez, mercredi 25, la Biennale hors normes, sérigraphie en liberté d'expression, c'est la manufacture des tabacs. C'est une expo qui va durer un certain temps, de Papy Art, bien connu sur les pentes pour ses créations sérigraphiques, de 9h à 19h tous les jours à l'université, donc de manufacture. Et puis dimanche, toujours à l'OIAS, le FDA Quartet de 14h30 à 17h, donc vous promènera dans le cimetière. Je pense qu'on peut parler de croque-mort jazz ou de nécro-jazz, une balade commentée. On sait que l'OIAS est rempli de célébrités plus ou moins récemment disparues. Et il y a les vendredis 27 et samedi 28 à l'initiative d'Enjeux sur image, deux jours d'engagement pour le cinéma, art et essai, projection, ciné-concert, table ronde. Ça se tient salle Paul Garcin, tout le monde sait où c'est. Et avec Jean-Pierre Thorne, et puis un réalisateur, et des films et des tables rondes. Alors le programme, vendredi, 14h30, ciné-concert, 20h, 93, La Belle Rebelle, notre projection. Et puis table ronde le samedi à 15h, un cinéma dans la cité avec différents intervenants. Voilà, nous arrivons au terme de ce Canu Info qui sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez normalement pouvoir le réécouter si vous le souhaitez sur le site de Radio Canu, le blog des Canu Info, donc sur Internet. Et pour l'heure, nous vous invitons à ne pas quitter l'antenne puisque vous allez apprendre des choses que vous ignorez quasi forcément sur Picasso lors de notre prochaine émission. On se quitte avec la musique de Gérard Lapalue. Bonsoir.